Utopod 016, 22 janvier 2008, La Bulldeuse de Sid Villainé. En partenariat avec le site ActuSF, elle éditeur Les Trois Souhaits. Bonjour tout le monde et bienvenue dans Utopod. Marc Tiefenauer à l'antenne. La Bulldeuse de Sid Villainé est parue en 2003 dans la revue française Galaxy, puis fin 2007 dans le recueil Le Miroir aux Éperluettes chez l'éditeur français Les Trois Souhaits. Sid Villainé, nouvelliste né en 1957 en France, écrit ses premiers textes dans les années 80. Monopolisée par sa carrière de professeur universitaire en sciences de l'information, elle marque une pause littéraire de près de 15 ans avant de reprendre la plume pour de bon. Son style poétique et ses univers contemplatifs lui valent de nombreux prix, dont trois fois le Reliéné et le Grand Prix d'Imaginaire 2007, excusé du peu. Elle vient de signer son premier recueil, Le Miroir aux Éperluettes, aux éditions Les Trois Souhaits. Le lecteur du jour, eh bien c'est encore une fois votre serviteur, qui commençait à être en manque depuis l'épisode 010. Et maintenant, secouez bien vos gin tonic, sortez vos pigeons voyageurs, et place à la littérature. La Bulldeuse, de Sid Villainé. Elle venait presque tous les mercredis, à 5 h. Une belle femme rousse avec des jambes interminables, toujours seule. Jamais je n'avais osé lui parler, encore moins venir à sa table, elle m'intimidait. Elle ne s'asseyait pas toujours au même endroit, dès les premiers rayons de soleil, elle s'installait dehors, à la terrasse, même s'il faisait froid. En hiver, elle cherchait les coins les mieux éclairés, les reflets de lumière. Mais cela, j'y mis longtemps avant de le comprendre. Il m'a fallu des mois pour vraiment la remarquer et commencer à m'intéresser à elle, pour déchiffrer pas à pas les jours, les heures et surtout la lumière. J'ai appris à arriver juste avant elle, à essayer d'imaginer où elle irait s'asseoir, à l'attendre en flânant avec mes lunettes noires ridicules. Lorsqu'elle avait choisi sa chaise, je trouvais une table pas trop loin. De toute façon, elle ne regardait jamais les autres clients. Je n'ai plus 15 ans depuis longtemps, et d'habitude, je suis un homme raisonnable, mais j'ai adoré tous ces instants où elle m'a fait jouer à l'agent secret. Elle n'était pas vraiment jeune, mais pas vieille non plus. Flamboyante, avec sa chevelure et ses tuniques colorées. Plutôt élégante, un brin exotique. Ses yeux me fascinaient. Quand elle arrivait, elle avait le regard fiévreux et concentré, presque avide. Elle avait un geste infime du doigt, auquel le garçon répondait par un léger hochement de tête. Un moment plus tard, il revenait avec, sur un plateau, un grand verre rempli d'une étrange boisson jaune paille. Quelque chose d'inégalement translucide, avec des reflets irisés. Il posait devant elle le verre et une soucoupe de cacahuètes, avec une précaution inhabituelle. Leurs regards se croisaient brièvement, mais jamais je ne les vis échanger un mot. Elle ne touchait pas aux cacahuètes. Elle prenait le verre avec respect entre ses deux mains, doigts tendus, sans l'envelopper, sans le soulever non plus. Puis elle le lâchait, ouvrait son sac à main, en sortait une minuscule fiole sombre et lâchait une unique et précieuse goutte de son contenu dans la boisson. Alors il se passait une chose étrange. Ça se mettait à bouillonner dans le verre. On voyait naître un petit maelstrom mousseux, comme une tempête de grêle miniature, qui devenait tout nébuleux et chatoyant. Alors elle commençait à regarder le liquide longtemps. Elle déplaçait parfois le verre pour jouer avec la lumière et attraper dans le liquide les reflets de soleil. Quand elle parvenait à en capturer un, ses yeux s'illuminaient en même temps que le liquide doré. J'ai fini par me décider à demander au garçon un mardi ce qu'elle buvait. Il a haussé les épaules en me disant que ce n'était pas sur la carte. J'ai insisté, insisté, j'ai fini par sortir quelques billets. Il les a ramassés en soupirant et a disparu vers la cuisine. Il est revenu un peu plus tard avec un grand verre jaune paille et une lettre manuscrite. La lettre disait « Nébuleuse. Jus de pamplemousse, 10 centilitres. Gin, 3 centilitres. Vodka, 2 centilitres. Jus d'ananas, 8 centilitres. Schweppes, 5 centilitres, une rondelle de citron vert, sirop de grenadine, 1 centilitre, 2 glaçons. J'ai goûté la nébuleuse. Ce n'était pas mauvais, c'était rafraîchissant, âpre et doux à la fois. Pas le goût de sa couleur, mais je ne crois pas qu'elle le commandait pour le goût. Et puis il manquait la goutte finale, celle qui changeait tout. Elle finissait quand même par la boire, sa nébuleuse, longtemps après, comme à regret. J'essayais de décrypter ses émotions, ses sentiments. C'était comme un rite. Il y avait un moment où ses yeux vacillaient un peu d'avoir plongé trop longtemps dans la brume ensoleillée. Elle battait alors des paupières et regardait autour d'elle, comme pour vérifier si le monde était toujours là. Jamais ses yeux n'ont accroché les miens. Ils glissaient, dérivaient. Puis elle reprenait le verre, le regardait encore de très près, avec complicité, comme un objet enfin apprivoisé, dompté. Elle buvait jusqu'à la dernière goutte, très doucement, à petites gorgées. Puis elle fermait les yeux, gardant pour elle tous ses secrets, emplis de brouillard doré. Elle sortait son porte-monnaie, laissait l'argent sur la table, se levait et sortait. Je ne m'en lassais pas, de son mystère à elle ou de mon rôle d'espion à moi, je ne sais trop. Cela durait depuis des mois et aurait pu durer encore bien longtemps. Mais il y a eu ce drôle d'enchaînement de circonstances. J'étais en avance ce mercredi-là, il pleuvait. Maurice m'avait déposé en voiture, me faisant gagner 5 minutes. Quand je suis entré, il faisait sombre. Pas encore nuit, c'était la fin de l'été, juste un peu obscur. Dehors, la pluie venait de cesser. Le ciel était menaçant, gris et noir, presque violet par endroits. Un rayon de soleil entra par l'une des baies vitrées pour aller se fracasser sur l'une des tables vides, qui se trouva soudain comme arrachée du décor, éclaboussée de lumière, projetée ailleurs. Je sus alors avec certitude que cette table, que le soleil avait frappée d'un coup de poing géant, cette table hors du monde, était celle qu'elle cherchait depuis si longtemps. C'était enfin la bonne lumière. Ce soir, cela pouvait réussir. Il était temps qu'elle arrive. J'ai senti aussi, à la même seconde, qu'elle était seule, toujours, et que ce soir peut-être elle en aurait assez, qu'elle pourrait avoir besoin de moi. J'ai su qu'elle aurait peut-être envie de parler et qu'il faudrait une oreille pour l'écouter. Je ne me suis même pas demandé si j'en avais le droit, ni si elle accepterait. Je suis allé m'asseoir à la table vide, attendant son arrivée. Elle est venue tout droit, sans hésiter une seconde. Elle s'est assise à côté de moi, comme si nous étions de vieux amis. J'ai dû me racler la gorge avant de parler. J'étais enroué, gorge sèche soudain. La lumière est si belle cet après-midi.
Oui, répondit-elle avec simplicité. Vous avez bien fait de venir à ma table aujourd'hui. Sa voix était basse et mélodieuse, et ses mots, en apparence simples, étaient complètement fascinants. Ils impliquaient le fait qu'elle m'avait remarqué, qu'elle savait que j'observais ses jeux de lumière, et que je savais que ce serait sa table avant même qu'elle ne s'y installe. Le soleil se voila une seconde. Elle me regarda, son regard s'assombrissant lui aussi d'inquiétude. Mais la lumière revint presque aussitôt, et je repris mon souffle. Elle baissa les yeux, mais j'avais eu le temps d'en voir la couleur, des yeux noisettes, presque oranges, comme des yeux de chat ou de panthère, avec des petites paillettes dorées. Le serveur s'approcha. « Nous ne commandons pas tout de suite, » lui dit-elle. Puis elle reprit pour moi. « Vous comprenez, je n'ai pas l'habitude. Je suis si souvent seule. » La lumière ne nous abandonnera pas tout de suite, j'en suis sûr. J'aurais bien aimé en être sûr, moi aussi, mais elle semblait vibrer d'une confiance fragile et inhabituelle que je n'aurais voulu abîmer pour rien au monde. J'ai adressé au Dieu une brève prière mentale, de toutes mes forces, et j'ai posé ma main sur son bras dans un geste instinctif pour la rassurer. Elle a tressailli, a retiré son bras pour empoigner ma main avec une passion violente, affamée et complètement inattendue. Elle l'a tenue ainsi pendant quelques secondes fiévreuses interminables, puis l'a lâchée comme si de rien n'était. Elle est redevenue lointaine. Je ne savais déjà plus si j'avais rêvé, alors que ma main était encore brûlante. Le silence nous enveloppa un instant. L'engourdissement de ma main avait gagné tout mon corps. J'étais figé, paralysé. Elle reprit la parole d'une voix très basse, comme si elle se parlait à elle-même. C'est cela qui est le plus terrible. Les défaillances de la mémoire, ne plus pouvoir sentir le parfum de sa peau, la chaleur de son corps contre le mien, la couleur exacte de ses yeux, tout ce bonheur simple et évident, les mots qu'il disait, toujours justes, qui me parlaient si bien. sa voix aussi, son harmonie, une harmonie dont je faisais partie. Le soleil était de plus en plus fort. Il faisait chaud soudain dans le bar. Le brouhaha des conversations s'éleva un peu. Moi, j'étais suspendu à ses paroles, à ses secrets émouvants, enfin délivrés. Elle me regarda bien en face. Maintenant, vous allez croire que je suis folle. Mais je vous le dis quand même. Il m'a promis que si je venais là au bon moment, à l'heure de notre rendez-vous, si j'avais tout bien fait comme il faut, je pourrais le voir dans le verre. C'est idiot, non? Mais je sais que c'est vrai. Seulement, il y a quelque chose qui ne marche pas. Elle se tut un moment. Moi, je ne savais plus que dire. Tout cela devenait vraiment trop absurde. Pourtant, je n'avais pas envie qu'elle s'arrête. Elle soupira. Il m'a parlé de bulles. Je crois qu'il n'y a pas assez de bulles. Alors soudain, tout devint clair. J'avais lu le mois précédent dans Pour la Science un article qui parlait des bulles d'Eus-Wackerfield. L'auteur expliquait qu'en théorie, on devrait pouvoir produire des bulles jumelles à partir d'une seule source cohérente. Pas n'importe quel genre de bulle. Celle-là était en déhydrométabenzo, je ne sais plus quoi. Dans certaines conditions très précises d'acidité, sous un certain éclairage, en présence d'un certain nombre de substances chimiques dont certaines devaient figurer à l'état de trace, un phénomène de résonance à distance était possible entre deux bulles jumelles dont les surfaces réfléchissantes entraient en interférence. Elle reprit la parole. Je suis sûr que c'est la bonne couleur. Je la reconnais. Il me l'avait montré plusieurs fois. C'est aussi la bonne lumière. J'ai tout fait comme il faut. Et maintenant, il est parti et ça ne marche pas. Je voulais l'aider. Je tentais désespérément d'évoquer la page de la revue, de retrouver le dosage, la formule. Transmission instantanée de signaux visuels. C'est comme ça qu'il disait. Elle était tout près des larmes, maintenant. Je compris qu'il ne lui avait rien expliqué. Pensait-il qu'il fallait qu'elle ait la foi? Que cela aiderait? Parfois, la science ressemble à la magie. Je repassais en revue mentalement l'article. L'acidité des milieux devait être identique, la couleur aussi. Chacun des ingrédients avait un rôle à jouer. Je ne pouvais rien faire au sujet du contenu de la fiole qui devait contenir le déhydrométabenzo machin, rien que des molécules jumelles. Mais c'était aussi la substance la plus fiable. Non, il devait y avoir un problème avec les ingrédients locaux, ceux qui étaient fournis par l'hôtel. Je l'ai interrogé sur la composition. Il s'était mis d'accord sur tout, et même sur la marque du sirop de grenadine. J'appelais le garçon. Un verre d'eau, s'il vous plaît. Il me regarda avec stupéfaction. C'est vrai que d'habitude, je bois de la Guinness. Il a dû croire que je voulais faire bonne impression à la jeune femme. Il a demandé d'un air bougon. Vichy, Saint-Hyeur, Evian. De l'eau du robinet, s'il vous plaît. Et puis apportez-moi une Guinness. J'aime bien la Guinness. C'est une boisson lourde qui vous ancre bien dans la terre. D'ailleurs, ça sent un peu la tourbe. Mes pieds commençaient à ne plus tout à fait toucher le sol. J'étais en train de devenir beaucoup trop aérien. Ça me lesterait un peu. Donnez-moi aussi ma nébuleuse, ajouta-t-elle. Le garçon, rasséréné, est parti chercher la commande. J'ai goûté l'eau. Elle me regardait comme on regarde le Messie, avec un espoir fou dans les yeux. L'eau n'avait aucun goût, aucun. Elle prit le verre dans sa main, en un geste détaché qui ne ressemblait pas à ses gestes immuables. Elle sortit la petite fiole et le compte-goutte, et elle laissa couler une perle obscure dans la boisson. L'étrange brume brillante se mit à vivre, mouvante, presque palpitante, et chargée de mystère. Elle souleva son verre vers la lumière, l'examina.
Oui, dit-elle enfin, c'est bien cela, la vraie harmonie. C'est cette lumière. Je ne sais pas pourquoi. Ses yeux n'étaient pas de cette couleur, et pourtant c'est comme quand je regardais ses yeux.
Je ne pouvais plus parler, de peur de briser le charme. Et puis je réfléchissais. J'ai bu un peu de Guinness. Elle reprit.
Il m'écrit quelquefois, depuis qu'il est parti, de belles lettres. J'aime ces lettres, mais il me manque tellement. Ces lettres, oh, qui voudrait voir ses yeux.
Il reviendra? La question me brûlait trop les lèvres, mais elle ne parut pas l'entendre. Elle continua, de sa voix calme et neutre.
Il dit que ça ne change rien, que nous n'avons pas besoin de nous voir. Il dit que je suis toujours avec lui et qu'il est toujours avec moi, que cela ne dépend que de moi. J'essaie, tant que je peux, j'essaie vraiment, vous savez. Elle me regarda soudain, comme pour quêter une approbation. Je comprenais.
Vous essayez de retrouver la couleur de la magie, la couleur de sa présence. C'est la couleur de la nébuleuse.
Oui, c'est ce que j'ai trouvé qui s'en rapproche le plus. La même lumière, la même sensation, l'équilibre, la plénitude. Elle hésita un peu. Vous y croyez vraiment, vous? Vous croyez que c'est possible? Qu'on peut y arriver? Vous croyez qu'il y arrive, lui? Que ça devrait suffire? Est-ce qu'on peut garder les choses vivantes et intactes en soi, éternellement? Vous croyez qu'on peut aimer quelqu'un et être heureux sans avoir besoin d'être avec lui? Que c'est possible de l'évoquer et d'en être comblé sans qu'il soit là?
Je n'avais pas de réponse. Vraiment pas. Et je savais encore moins quelle réponse il fallait lui donner à elle. Mais elle continua sans attendre, fermant les yeux. Sa voix se fit encore plus basse.
Quelquefois, ça marche. Quelquefois, je le sens. Où j'entends sa voix. Dans un reflet, j'attrape la sensation de sa joue contre la mienne, ou l'émotion de son parfum, où j'entends son rire. J'étais presque sûr maintenant.
Je me souvenais des conditions à réunir. Dans les substances rares, il était noté « trace de chlore ». Ici, à Marbuse, l'eau est tellement pure qu'on ne lui ajoute aucun additif. Les glaçons sont purs, eux aussi. C'est tout à fait inhabituel. J'ai rappelé encore une fois le garçon. Je lui ai demandé un tout petit peu d'eau de Javel dans un petit verre à liqueur. Là, il a protesté. Il m'a dit que le bar n'était pas un labo de chimie. J'ai sorti encore quelques billets. La lumière commençait à s'affaiblir, tout doucement. Il fallait faire vite. Quand il a apporté l'eau de Javel, j'ai plongé dedans le coin d'une serviette en papier, puis j'ai frôlé le contenu du verre de nébuleuse avec le coin mouillé. L'effet a été foudroyant. Des grappes de bulles ont commencé à pousser, s'agglutinant les unes aux autres, les petites bulles initiales fusionnant pour former des bulles de plus en plus énormes. La jeune femme à côté de moi ne respirait plus. Elle m'arracha le verre des mains pour l'exposer sous le meilleur angle au plus intense rayon du soleil déclinant. Dans le verre, dans la plus grosse des bulles, nous le vîmes en même temps et elle poussa un cri étouffé. Un petit visage miniature très agité, ouvrant et fermant la bouche comme dans un film muet. Le visage s'approcha, grossit, enfla, et enfin, il y eut en gros plan un œil bleu battant des cils sur la surface luisante et incurvée. Un œil qui nous regardait.
Après ? Après, la bulle a explosé, bien sûr. Elle est restée là, sans bouger, sans parler, pendant de longues minutes. J'ai mis mon bras autour d'elle, un peu maladroitement. Je l'ai serré fort. J'y ai mis toute ma chaleur, toute la sincérité dont j'étais capable. Je l'ai senti contre moi rigide et tendue comme une flèche d'acier, murée, arc-boutée. Puis elle s'est dégagée, avec calme et douceur. Elle s'est levée, a pris son sac à main, a murmuré. Merci. Merci pour tout. Elle est partie. Elle a disparu. Je ne l'ai jamais revue. Il m'arrive encore, parfois, de venir ici le mercredi à 5 heures pour boire une Guinness en pensant à elle, quand la lumière est belle. Je n'ai jamais repris de nébuleuse. C'est elle qui a la petite fiole, vous comprenez, et je n'ai pas pensé à lui demander de m'en laisser quelques gouttes. Alors à quoi bon?
Qu'est-ce que vous dites? C'est mon histoire qui est nébuleuse. Vous croyez vous y connaître mieux que moi en chimie optique?
Moi je vais vous dire. Il n'y a pas de science sans un brin de magie. Vous dites que c'est mon œil que j'ai vu dans la bulle? C'est idiot. Mes yeux à moi sont noirs, vous voyez bien. Celui de la bulle était bleu. Et puis je peux bien vous le confier. J'ai découvert quelque chose. Quand le soleil est un peu bas sur l'horizon, quand il y a toutes ces couleurs étranges dans le ciel et cette lumière dorée qui vous réchauffe le cœur et l'âme, quelquefois je vois quelque chose dans ma Guinness.
tu vois la couleur de ses yeux noisettes et les petites bulles scintillant comme les paillettes qu'elle avait dans le regard.
Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Nous avons pas mal de choses à vous communiquer aujourd'hui dans l'épilogue, alors restez à l'écoute. Tout d'abord, nous aimerions vous remercier, vous autres auditeurs, sans qui Topod n'existerait pas. Vous êtes à présent près de 1500 personnes à nous écouter régulièrement, et ça, ça fait rudement plaisir. Et puis nous recevons plein de messages d'encouragement et d'appréciation qui nous motivent à aller toujours plus loin dans notre offre. Continuez comme ça, on adore. Il vous suffit de nous écrire à info@utopod.com. Cette année sera riche en événements, croyez-nous. Au programme, un nouveau site tout beau, tout neuf, en prévision, plein de nouvelles inédites d'auteurs phares, un ou deux épisodes consacrés à des auteurs anglo-saxons célèbres, des avant-premières de nouveautés à paraître en librairie, des épisodes en partenariat avec la Maison d'ailleurs, le musée suisse de la science-fiction, et bien d'autres surprises. Vous n'aurez pas le temps de vous ennuyer. Certains d'entre vous, l'année passée, ont peut-être rencontré des problèmes au moment du téléchargement de nos épisodes. Si c'est le cas, veuillez nous en excuser. Nous avons désormais réglé nos problèmes techniques en changeant de serveur et en modifiant l'échantillonnage de nos épisodes. Maintenant, vous pouvez les télécharger beaucoup plus rapidement et sans problème. Côté news, l'éditeur français spécialisé Le Bélial vient d'annoncer qu'il changera de diffuseur et de distributeur à compter du 1er mai 2008. Concrètement, cela signifie qu'il sera bientôt beaucoup plus facile de trouver les ouvrages du Bélial, notamment la revue Bifrost, dans les librairies suisses, belges, québécoises et françaises. Et ça, c'est une excellente nouvelle pour les passionnés des gens de l'imaginaire. Annonçons aussi l'inauguration du site des éditions Les Trois Souhaits, excroissancedactusf.com, dont vous trouverez l'adresse sur notre site www.utopod.com. Et dernière chose, un grand merci à Jean Petitgroux et à Joël Champetier des éditions Alire et de la revue Solaris, toutes deux québécoises, pour leur sympathie, leur disponibilité, leur ouverture d'esprit et leur générosité. Grâce à leur collaboration, nous découvrons peu à peu la richesse de la SF québécoise et serons bientôt en mesure de vous proposer dans Utopod de superbes textes dont vous nous direz des nouvelles. En fait, on aura encore plein de trucs à vous dire, mais comme on a peur de vous saouler et qu'il n'y a pas de raison qu'on le fasse gratuitement étant donné le prix actuel de la bière et du whisky, on vous lâche la grappe pour aujourd'hui. Sinon, on vous donne rendez-vous dans pas longtemps pour un épisode spécial Lovecraft. D'ici là, portez-vous bien et buvez beaucoup de bulles d'amour. À bientôt !